9h-10h, à votre santé, avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
AVS, à votre santé, le yoga, c'est bon pour la santé. C'est pas moi qui le dis, mais mon invité, Élodie Garamond, vous êtes la bienvenue sur Beurre FM.
Bonjour, merci Philippe.
Vous êtes entrepreneuse, fondatrice du Tigre Yoga Club. Alors on verra ce que c'est tout à l'heure. Et vous publiez « Du chaos naissent nos étoiles, carnet de bord d'un apaisement » aux éditions Flammarion. À quel genre votre livre appartient-il ?
Je dirais au genre de psychologie positive, s'il fallait le mettre dans une case.
Mmh. Est-ce que vous êtes devenue la grande papesse de la psychologie positive que vous ambitionniez d'être ?
Alors, je n'ambitionnais pas et je ne crois pas l'être devenue, mais je porte un message résolument positif. Donc, oui.
Bon, d'une certaine façon,
D'une certaine façon, oui.
Vous êtes habité par une mission, celle d'évangélisation du yoga et de la méditation auprès des jeunes générations. Pourquoi ?
Alors, pas simplement auprès des jeunes générations, auprès de tous, des enfants aux personnes âgées. Pourquoi ? Parce que je suis convaincue au fond de moi que c'est un life changer. Donc, on peut changer sa vie grâce à ça. On peut changer ses rapports à soi-même, ses rapports aux autres. Et que chacun peut y accéder. C'est, tout le monde peut aujourd'hui pratiquer du yoga ou de la méditation chez soi ou ailleurs. Et que changer son rapport à son propre corps, changer le rapport à son esprit et à sa vision de la vie en général, c'est pourquoi le refuser alors que c'est à portée de main ?
Ça a marché pour vous, donc ça va marcher pour les autres.
Ben, je constate que ça a marché pour d'autres, parce que j'ai cette chance d'avoir plusieurs centres aujourd'hui et de recueillir des témoignages au quotidien de personnes pour qui ça a fonctionné. Donc, et puis, pas seulement ici, dans un microcosme parisien, c'est un phénomène mondial et qu'à un moment, ça ne peut pas être uniquement un effet de mode qui repose sur des photos Instagram de jolies femmes qui font du grand écart. C'est qu'il y a autre chose derrière. Et c'est cette autre chose derrière, justement, le backstage de l'art de vivre du yoga qui, lui, est véritablement un transformateur de vie que j'ai envie de partager de façon le plus large possible. Oui, c'est une vraie mission.
Alors, votre livre fonctionne comme un journal.
Oui.
Vous êtes d'accord avec ça ?
Oui, c'est entre
c'est
le journal intime
à quel genre,
et le carnet de bord.
Oui,
c'est un genre
nouveau, assez novateur.
C'est un peu particulier.
C'est entre le carnet de lecture, puisque vous avez toutes les lectures que vous aimez et que vous partagez dans votre livre.
Des références
pédagogiques. C'est pas chronologique, finalement, en plus. C'est ça
non,
qui
c'est une chronologie déconstruite.
C'est ça. Donc, c'est assumé.
Alors, c'est assumé, absolument, et ça permet aussi de laisser des trous. Ça permet d'éviter le
la monotonie.
Oui, et surtout l'arrogance de l'autobiographie quand on n'a pas fait quelque chose de sa vie qui mérite une autobiographie.
Et c'est 10 ans de votre vie, en gros.
Oui, c'est plus ou moins 10 ans, ça laisse des trous. Ça démarre plutôt il y a 20 ans, 25 ans. Mais dans sa globalité, c'est beaucoup sur les dernières années, évidemment, qui sont justement là où le chemin d'exploration de l'art de vivre du yoga s'est accéléré. Et c'est surtout ça que j'avais envie de partager. Mais pour comprendre pourquoi j'avais envie de le partager et qu'est-ce qui faisait cette dualité entre l'entrepreneuse et justement la missionnaire, entre guillemets, du yoga, il fallait remonter un peu en arrière pour comprendre d'où je venais. Et puis peut-être que c'était une façon aussi pour moi de justifier ou de créditer le pourquoi j'en étais arrivée là. C'est très personnel. Et c'est une mise à nu quelque part. Donc voilà, mais j'ai sélectionné quelle partie du corps je voulais mettre à nu.
Alors, le Tigre Yoga Club que vous avez fondé, par exemple, vous dites que quand vous vous êtes lancé dans cette entreprise entrepreneuriale, vous n'avez écouté personne.
Non.
Pourquoi ? C'est surprenant, ça. En général, quand on n'a jamais fait quelque chose, on s'entoure de l'avis des meilleurs.
Mais non. Parce que j'avais vraiment un instinct de ce vers quoi j'avais envie d'aller. Et comme c'était assez novateur et que je défrichais un terrain, je ne sentais pas qu'il y avait des personnes dont la compétence précisément sur l'offre, hein, je ne parle pas du reste, mais sur l'offre.
Parce que des studios de yoga, il y en avait.
Oui, mais il y avait des spas, il y avait des clubs de sport, il y avait des studios de yoga, il y avait des restaurants de food De nourriture saine. Voilà, c'est ça. Je cherchais le.
Ça me fait mal en bouche. Hein,
je
vous dire que vous voyez quand je le dis.
Allez-y,
comme
dites-le encore. Healthy food. Ça vous fait plaisir, je le sens.
Il y avait
voilà,
ça.
Il n'y avait pas l'agrégation de l'ensemble des composantes que sont devenues le tigre. Alors, oui, je me suis appuyée sur des expertises juridiques, comptables, financières. Moi, le premier business plan que j'ai présenté, j'avais oublié de mettre la TVA. Donc, c'est pour vous donner mon niveau de capacité d'entrepreneuriat. Mais sur la construction de l'offre, je savais exactement où j'allais et tout le monde me disait de ne pas y aller.
Donc
je n'ai écouté personne, justement parce que sinon, je n'allais pas le faire.
C'est le signe noir, ça.
Exactement, c'est le signe noir.
Ouais. Mais vous savez que... Ce n'est pas parce que ça n'existe pas que ça ne va pas marcher.
Voilà, voilà, on est d'accord. Et le signe noir, c'est un des livres, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai eu envie d'en parler, c'est vraiment un des livres qui a été une forme de guidance pour moi. Et je suis quelqu'un de très réceptive aux signes. Peut-être même trop de l'avis de certains. Je les vois, je les suis, je les écoute et je les cherche un peu. Donc, il y a eu des signes, non pas C-Y, mais S-I, qui m'ont porté dans cette évidence que c'était le chemin. En revanche, je précise quand même que de n'écouter personne, ça a un prix. Et
on se plante, on dit c'est bien fait pour toi, ma pauvre fille. On t'avait bien dit.
Alors, je me suis pas plantée, mais j'ai payé assez cher la courbe d'apprentissage, on va dire. Donc, j'ai fait plein d'erreurs. Oui, et puis j'ai fait surtout plein d'erreurs qu'après, quand on répare, qui coûtent cher, qui font perdre du temps, de l'argent, de l'énergie, qui peuvent démotiver aussi des personnes. Je n'étais pas du tout armée pour cette aventure en termes de compétences. Mais j'avais une telle énergie, une telle foi dans mon projet que je ne l'ai jamais lâché.
D'accord. 2013 ?
2013.
Voilà.
Ouverture officielle 1er décembre 2013.
Voilà. Et maintenant, on peut dire qu'aujourd'hui, avec du recul, c'est un succès.
Oui.
C'était un succès. Par contre, c'était un succès dès le départ parce que votre lieu a intéressé beaucoup.
Oui, succès d'estime.
Voilà.
Mais pas commercial.
Vous assumez vos contradictions. Donc, vous dites que vous êtes profondément yogini. Mais que vous êtes également automobiliste assumé et que vous prenez la voiture parce que c'est plus confortable que le métro ou vos pieds.
Je l'assume très bien.
Et vous prenez l'avion. Et c'est pas un peu le paradoxe de notre société aujourd'hui où les gens subitement se mettent à manger sain, parlent de bio, de...
Je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'il y a effectivement un paradoxe, mais je crois aussi que pour avancer sur ce chemin... Il faut être dans une éco-responsabilité plaisir. Il faut savoir proposer sans imposer. Et donc, on ne peut pas devenir un évangéliste de ce monde écologique et de ces nouveaux paradigmes de vie dans lesquels on intègre le respect de la planète à 100% et révolutionner sa vie. Il faut faire ses choix. On ne peut pas tout faire. Et j'ai peur que si on s'acharne à vouloir tout faire, on ne fasse rien. Donc voilà, moi j'assume effectivement les transports. Il se trouve que naviguant d'un tigre à l'autre et ayant des enfants jeunes, ayant des activités très éparses et ayant une équipe restreinte, c'est moi qui fais le livreur entre tous les tigres. Donc j'ai tout le temps des sacs, des cartons, je suis en permanence chargée. J'ai essayé sur les trottinettes et sincèrement, j'ai failli risquer ma vie.
Non, c'est qu'en ce moment, Mme Hidalgo les a dans le collimateur.
En plus. Comme je suis politiquement correcte et que je tiens à ma vie, je ralentis la trottinette.
En plus, c'est super dangereux. En fait, ouais.
Le vélo, c'est moins pratique quand on trimballe plein de trucs. Et voilà, donc en revanche, je fais partie des automobilistes très cool. Moi, je suis hyper heureux. Je n'ai pas de problème à être dans les embouteillages. J'appelle des gens, j'écoute des podcasts. Je suis très zen au volant.
Il faut écouter les podcasts de votre santé. Tiens.
Ouais.
C'est bien, dans votre voiture. Il faut absolument le faire.
OK.
Votre livre est finalement l'histoire d'un changement de vie.
Oui.
Alors, avec du recul, est-ce que ça valait le coup de quitter... La mini d'entreprise, l'iPhone dernière génération et le bureau Parc Monceau pour votre vie. Parce que si je vous comprends bien, au moment où vous quittez votre vie, vous avez trop de boulot et vous vous retrouvez dans une aventure où vous en avez encore plus. Alors, moi, les gens qui changent de vie pour aller ouvrir une maison d'hôte en Ardèche, à la limite, ça peut se comprendre. Mais quand vous vous créez plus de problèmes que vous en aviez avant,
je suis bien d'accord.
Est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que c'était ça le changement de vie ?
Alors, ce n'était pas ce que j'envisageais, mais ça vaut le coup et je n'ai jamais regretté, jamais une minute. Je n'avais pas envisagé que cette aventure deviendrait, prendrait l'ampleur qu'elle a prise, mais je crois que quand on rentre dans un monde mouvant et être acteur d'un monde en changement et ce monde quelque part du bien-être est en changement parce que tout le monde en ce moment a envie de prendre soin de soi, c'est le mieux vieillir, c'est le mieux vivre, c'est le mieux s'alimenter parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a des crises de confiance, parce que on s'est tous rendu compte qu'on n'avait qu'un corps et qu'il était fragile. Donc voilà, et qu'on a été en plus très aidés par les médias, les neurosciences qui ont prouvé que toutes ces techniques psychocorporelles douces vont dans le sens d'une amélioration globale de la santé.
Et votre livre est aussi un guide de
oui,
toutes ces...
Oui, exactement, je le raconte.
De tout ce qu'il y a sur le marché actuellement.
Oui, je donne plein d'infos.
Il faut être Bac plus 20 donc, aujourd'hui en thérapie pour savoir ce qu'on va utiliser.
Et bilingue en sanskrit.
Ouais.
Voilà, donc moi, c'est la langue du yoga, la langue ancienne du yoga. Mais voilà, donc moi, le fait d'être actrice de ce monde-là, c'est un peu magique, c'est merveilleux. Et donc, je me suis laissée embarquer dans cette aventure. Et en effet, elle grossit et c'est devenu beaucoup plus chronophage que ne l'était mon job précédent. Sans les conditions matérielles très confortables que m'apportait celui-ci. Néanmoins, je n'ai aucun regret. Mais vous savez, j'observe quelque chose et vous devez l'observer aussi, c'est que on est dans une période où la société est en pleine mutation et il y a énormément de personnes qui ont envie de changer de vie, qui ont
incroyable.
Ce fantasme,
oui, c'est un fantasme
du changement de vie. Et moi, je reçois un nombre de mails, et surtout depuis la publication du livre, de personnes qui me disent « Ah, j'aimerais avoir vos avis, vos conseils, j'ai envie de changer de vie ». Alors, ça va de... grosse population féminine qui veut devenir naturopathe, sophrologue ou life coach, quand ce n'est pas prof de yoga ou de pilates.
Il y a aussi love coach.
Love coach. Il y a toutes les personnes qui ont envie de quitter la vie citadine pour aller, comme vous le disiez, élever des moutons dans la Creuse ou entretenir des vignes en permaculture, voilà, au fin fond.
Ça, c'est très, très bien aussi.
Mais tout ça, c'est formidable.
Très tendance.
Moi, ce que je dis, c'est que il y a quand même des pièges à ça et il faut avoir une capacité de discernement du pourquoi on a envie d'y aller et de comment on va effectuer ce changement de vie. Parce que ce qu'on ne voit pas ou ce qu'on ne dit pas, c'est aussi toutes les personnes qui finalement pourraient changer de vie dans leur vie quotidienne, dans leur couple, dans leur travail, dans leur façon de vivre, sans déménager, sans changer de job et sans changer de mari ou de femme. Le changement, il commence par être à l'intérieur de soi. Et je crois qu'il faut arrêter de fantasmer l'idée qu'en quittant tout, et parce qu'on va arrêter d'avoir ou des embouteillages le matin pour les gens très bien qui prennent leur voiture comme moi, ou parce qu'on va quitter la pollution, parce qu'on va quitter mari, enfant et jeter le bébé avec l'eau du bain, ça n'arrange pas tout. Ça, c'est faux, c'est un leurre.
Et c'est comme les gens qui perdent 25 kilos et qui pensent qu'ils vont être beaucoup plus heureux avec 25, qu'ils auront plus de problèmes, plus de soucis avec 25 kilos de moins.
Les gens qui font de la chirurgie esthétique et qui pensent que ça va régler leurs problèmes de couple. Ce n'est pas vrai. Pardon, mais c'est parce qu'on parlait de chirurgie esthétique tout à l'heure.
Non, mais c'est vrai, ça fonctionne, mais finalement...
Non, voilà. Mais il faut savoir pourquoi on a envie de changer de vie. Et il faut... La première chose à faire quand on a envie de changer de vie, c'est déjà de passer un peu de temps avec soi-même. Et quand je dis passer un peu de temps avec soi-même, c'est de rentrer un peu dans une forme d'écoute intérieure. Mmh. Déjà de se poser avec soi, de ne pas être dans un mouvement agité permanent, de ne pas être dans une suraccumulation de mots, de pensées, d'idées. C'est déjà faire un peu le vide et laisser un peu de place dans sa tête pour essayer de comprendre ce qui ne va pas vraiment et quels sont les vrais motifs d'avoir envie de changer de vie. Et je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui vont trop vite. Action, réaction et hop, c'est parti, ça y est, j'habite au fin fond de la Corse. Voilà. Et après, il faut savoir bien s'entourer.
Changer
de vie, c'est un peu l'erreur que j'ai faite.
Voilà,
hein.
ça s'apprend finalement.
Et ça se construit lentement dans le temps. Il faut être entouré, il faut le faire bien parce que c'est très bien de vouloir changer de vie, mais parfois, il peut y avoir aussi des... Alors, c'est pas grave de se planter pour soi. Moi, j'ai fait plein d'erreurs, je l'ai dit, je l'assume. Mais derrière, il faut pas oublier qu'il peut y avoir des dommages collatéraux pour les gens qui nous entourent. Quand on change de vie, on embarque aussi des personnes dans son changement de vie. On embarque des enfants, on embarque un conjoint, on embarque... Voilà, d'autres personnes.
Vous l'avez embarqué, votre conjoint, vous? Je me souviens pas.
Alors, enfin, non.
C'était pas le même livre, parce que je pense que le conjoint est resté au bord de la route.
Bien. Il est resté, alors pas au bord de la route, mais
il n'est pas parti.
Sur l'herbe.
Voilà, sur l'herbe. C'est bon, vous savez, l'herbothérapie. Du chaos naissent nos étoiles, carnet de bord d'un apaisement, c'est chez Flammarion. Et on en parle jusqu'à 10h.
À votre santé, reviens dans un instant. À votre santé, avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Voilà, et mon invité ce matin, Élodie Garamond, quand elle a voulu créer son entreprise, n'a écouté personne. Ça, j'aime bien, finalement, le fait de finalement n'en faire qu'à sa tête et d'aller au bout de son projet pour ne pas le dénaturer. En tout cas, ce projet, ça s'appelle le Tigre Yoga Club. Il y en a combien aujourd'hui vous êtes sur toute la France maintenant?
Oui.
Vous êtes à Deauville, vous êtes dans les endroits...
On est à Lyon. Ouais. Aussi, on a ouvert il y a 15 jours à Lyon. Mmh. On est dans le sud, on est en effet à Deauville. Ça, c'était un projet assez personnel parce que ma famille habite en grande partie en Normandie.
C'est votre côté normand, ça.
Voilà, exactement. Donc, c'était une très belle opportunité. Et sinon, on en a 4 à Paris.
Voilà, et vous publiez « Du chaos naissent nos étoiles, carnet de bord d'un apaisement ». C'est chez Flammarion. C'est aussi un guide à travers la jungle urbaine de toutes les pratiques psychocorporelle douce, dont vous avez parlé tout à l'heure, mais dont on entend énormément parler aujourd'hui. En ce moment, c'est vrai que c'est la sylvothérapie qui a énormément le vent.
Ah, mais j'adore la sylvothérapie. Mais moi, j'embrasse les arbres depuis des années. Mes enfants embrassent des arbres dès qu'on arrive dans une forêt. Et je suis très heureuse de savoir que ces fameux bains de forêt, c'est le Shirin Koru japonais, sont devenus à la mode, entre guillemets, puisque finalement, qu'importe si c'est à la mode ou pas, ce qui compte, c'est que ça fasse du bien et que ça se généralise. Et vous savez, la sève des arbres, elle remonte au printemps. Donc, c'est printemps-été, c'est le moment où il faut embrasser les arbres. Ce qui est un peu ridicule, c'est ceux qui le font en plein hiver, parce que ça veut dire qu'ils ont oublié leur leçon de biologie. La sève des arbres, elle redescend dans la terre pendant l'hiver.
Enfin, bien. Voilà. Pourquoi est-ce que, contrairement à l'adage, vous avez décidé de gratter là où ça ne démange pas?
Parce que on ne peut pas être dans une quête de vérité permanente dans sa vie et embarquer les gens dans cette quête de vérité et mettre des œillères et faire comme si on n'avait pas remarqué que soi-même, dans sa dimension la plus intime, on était dans le mensonge.
Alors, vous proposez des choix de lecture très, très judicieux pour tous ceux qui nous écoutent, en plus de votre livre, bien sûr. J'ai offert à Steve, qui est notre coach maison et star, les Yoga Sutras, alias YS. Donc, je sais pas que c'est un livre culte, finalement. 195 aphorismes, donc des sutras. Voilà. Et ça, c'est la base du yoga. Vous l'avez lu 3 fois. Pourquoi? Vous n'avez pas compris la première fois?
Absolument.
Ça vous a parlé un peu plus la troisième fois?
Je n'ai pas compris grand-chose parce que ce sont des aphorismes qui nécessitent d'avoir déjà exploré un peu les valeurs et les textes, les différents textes fondateurs du yoga pour le comprendre. Il faut avoir compris, par exemple, que le yoga, ce n'est pas simplement les postures physiques. Le yoga, c'est 8 corps. C'est 8 dimensions, voilà.
Alors vous les proposez
je vais pas vous le dire maintenant, mais il y a la respiration, la méditation, et tant qu'on n'a pas appréhendé l'ensemble de ces 8 dimensions et qu'on pense simplement que le yoga c'est mettre la jambe derrière la tête dans un studio, on ne peut pas comprendre les Yoga Sutras, puisque justement on explique un peu dans ce livre effectivement fondateur où, comment, pourquoi le yoga peut rentrer dans la vie de tout un chacun.
De Patanjali.
Auteur présumé, oui. Patanjali. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vraiment su d'abord si c'était bien de Patanjali, et surtout on ne sait pas si Patanjali existe. On pense que Patanjali pourrait être plusieurs auteurs.
Bon, il faut le lire ce livre, en tout cas si vous vous intéressez
au
yoga, notamment. Alors il y a un autre livre pour vous qui est un des plus gros livres de ce siècle, c'est « Le pouvoir de l'instant ». Et pourquoi finalement c'est fondamental et ça vous a aidé, vous, dans votre changement de vie, ce livre, la lecture de ce livre?
Parce que je trouve que beaucoup de personnes ont envie de méditer, sentent un peu un appel vers, euh, vers la méditation et vers cette connexion à l'instant présent, avec une réelle difficulté à prolonger l'expérience et à l'intégrer dans sa vie. Et que, on le voit tous, on est en permanence surconnecté, on a du mal à capter notre attention sur un point précis ou sur un sujet précis plus de quelques minutes, et je n'ose pas dire secondes pour les enfants, et que c'est un vrai problème aujourd'hui. C'est un vrai problème d'être en permanence dans une projection sur hier, sur demain, sur tout à l'heure, et d'avoir une vraie difficulté à être dans ce moment présent. Et ce moment présent, il nécessite d'être connecté à son corps, d'être connecté à ses sensations. Est-ce que vous, là, par exemple, dans l'instant présent où vous me regardez, vous sentez ce qui se passe dans vos doigts? Vous sentez ce qui se passe dans votre odorat?
Je vous jure que oui.
Alors, les oreilles, oui, parce que vous
avez... Non, mais alors, main odorat, ouais.
C'est important d'être capable d'appuyer sur pause. Et contrairement à ce qu'on pense dans la méditation, on ne fait pas le vide, on fait le plein.
Ça, c'est quelque chose que j'ai appris dans votre vie, parce qu'on dit toujours, on a ce sentiment que c'est le vide qu'on doit faire.
Ben non, on ne demande pas aux gens de ne plus avoir de pensée, on demande simplement, on recommande, on propose de faire le plein et d'être conscient de ses pensées. On ne dit pas qu'il faut vider toutes ses pensées, mais juste être conscient de ce qui se passe, être conscient des pensées, être conscient des sensations, être conscient de ce qui se passe autour de soi. Et c'est ça ce qu'on appelle être dans l'instant présent. C'est dans une pleine conscience, une hyper conscience de où on est à l'instant T. Donc de ne pas être à hier et de ne pas déjà être à demain. Et je crois que ça développe, vous savez, le cerveau c'est un muscle, hein, donc ça développe vraiment des capacités cérébrales importantes. Et ce n'est pas moi qui le dis, hein, ce sont les neurosciences, ce sont les médias qui relaient ces informations. Et on en a besoin aujourd'hui et on va en avoir de plus en plus besoin parce que justement, c'est une réponse à l'hyperconnexion contre laquelle on ne va rien faire. On ne peut rien faire, c'est le mouvement de l'histoire. On ne peut rien faire contre la surmultiplication des messages qui nous sont envoyés toute la journée par des publicités qui nous entourent, surtout dans des milieux urbains. Et qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ne voient même plus ce qui se passe autour d'eux. Et le cerveau, on demande au cerveau d'enregistrer un tel nombre d'informations. Vous savez, on dit qu'on a 80 000 pensées par jour, dont plus de 70% sont négatives. C'est terrible. Et on n'en est même pas conscient. Donc voilà, c'est simplement, je ne dis pas qu'il faut aller contre ça, je dis simplement que il faut se donner des clés, des outils accessibles pour être conscient de ça.
Alors, à la base, Élodie Garamond, vous avez mal au dos.
Oui.
C'est ça le problème.
Ça va mieux.
Oui, mais à la base.
Oui.
Au début de votre histoire, finalement, vous avez un mal au dos tenace dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser. Et c'est en voulant finalement vous débarrasser de ce mal au dos que vous allez tomber sur le yoga.
Oui.
Alors, il y a les insomnies et le mal au dos. Mais peut-être que ça va ensemble.
Non, c'est surtout le mal de dos a été vraiment un accompagnateur de vie depuis maintenant de longues années, depuis 10-12 ans. Et si la question vous brûle les lèvres, il va mieux. Je vous remercie.
Oui, parce que ça concerne beaucoup de gens, ça, le mal au dos.
Exactement. Et donc, je dois dire, ce n'est pas une fatalité. Et moi,
Vous avez galéré quand même.
Oui, j'ai galéré. J'ai exploré. C'est parti, c'est revenu, c'est reparti, c'est re-revenu. Après, j'ai aussi, moi, fait du mal à mon corps. Donc, j'ai créé ce mal de dos. Il était à la fois lié à ma structure vertébrale, lié aux accidents de voiture, chute de cheval, etc., que j'ai fait enfant. Et aussi beaucoup parce que j'ai traversé une période d'anorexie forte et que ça abîme énormément le corps. Et ça, il faut quand même le dire.
Ah, il y avait les deux. Il y avait l'anorexie et ce que vous appelez de la boulimie.
Oui.
Enfin, 66 kilos, c'est pas énorme.
Je ne sais pas si vous avez remarqué, je suis assise là, mais je ne suis pas très grande.
D'accord, mais à 66 kilos, bon, c'est pas...
Alors, on va dire qu'entre 66 et 41...
Voilà, vous avez 25 kilos de...
Je pèse pas 41 maintenant.
Ouais. Là, vous
on
êtes
en parlera
période.
Après, hors antenne.
Non, mais c'est important. Là,
je pèse 52 et je suis bien.
D'accord.
Je suis contente.
Donc,
je suis contente.
Aujourd'hui, Parce que comme vous parlez du yoga et que les gens ont vraiment des problèmes de dos, est-ce que vous nous dites que le yoga, pour les gens qui ont des problèmes de dos, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne et qui fonctionne bien.
Et qui fonctionne bien.
Et durablement, parce que le problème des maux de dos, c'est qu'on s'en débarrasse sur le coup et qu'ils reviennent avec la même fréquence.
Ça fonctionne durablement si on le fait dans de bonnes conditions, avec un bon enseignant, un bon encadrement, et qu'on ne cherche pas la performance. Les personnes qui viennent faire du yoga pour se prouver quelque chose, pour étaler leur capacité corporelle en essayant de forcer à tout prix, ne vont pas régler des problèmes de dos. Ceux qui sont à l'écoute et qui se confrontent à leur ego sur le tapis en se disant « bah tiens, non, je sens que mon corps ne peut pas aller au-delà de ça », et qui sont en l'écoute de leur corps et qui vont trouver plus un alignement du corps qu'une performance du corps, eux régleront leurs problèmes de dos. Mmh.
Expliquez à quelqu'un qui nous écoute et qui ne sait pas ce que c'est que le yoga.
Le yoga, c'est une discipline, une pratique psychocorporelle douce, puisqu'on travaille autant le corps que l'esprit, dans lesquelles on va connecter le corps et l'esprit à travers la respiration. Et la respiration va être la clé du mouvement. Donc chaque mouvement est lié à une respiration et on va enchaîner des mouvements qu'on appelle des postures ou des asanas à un rythme plus ou moins rapide en essayant à chaque fois de trouver ces fondations, à la fois l'ancrage et la stabilité et en même temps la légèreté et le confort. Donc c'est cette équation on cherche à trouver dans le yoga.
Et vous, votre parti pris, c'est que le yoga, ça concerne tout le monde, c'est pour tout le monde.
Oui.
Il y a une forme de démocratisation, finalement, du yoga.
Absolument.
Tous les âges, toutes les classes sociales.
J'ai un très bon exemple. Mon beau-père, qui est aussi mon associé, qui m'a élevé, qui est un monsieur de 72 ans, a décidé de se mettre au yoga l'année dernière, ou il y a 2 ans. Il n'en avait jamais fait de sa vie. Donc, il a commencé à 70 ans. Et ça lui fait beaucoup de bien.
D'accord. Il y a combien de sortes de yoga ?
Alors, il y en a beaucoup. Il y a des yogas traditionnels.
Il y en a énormément.
Et il y en a de plus en plus parce qu'il y a beaucoup de personnes qui l'accessoirisent pour pouvoir lui donner des étiquettes différentes. Et aujourd'hui, on assiste à une démultiplication des pratiques de yoga qui est presque un petit peu dérangeante pour les puristes comme moi. Mais il y a des écoles traditionnelles. Il y a 4 grandes écoles traditionnelles et je dirais qu'un studio de base va proposer une dizaine de yogas différents.
Et comment savoir finalement quel est le yoga qui convient à chacun d'entre nous ?
Alors, il faut déjà savoir écouter son corps, donc prendre le temps de ne pas laisser le mental juger tout de suite en disant j'aime ou ne j'aime pas, mais de sentir vraiment les effets que ça a sur son corps quand on teste une pratique. Il ne faut pas hésiter à en tester d'autres. Vous savez, le yoga, c'est un peu comme la danse. Les gens qui disent ah ben moi, j'aime pas le yoga, c'est comme de dire j'aime pas la danse, alors que la danse, ça va de la zumba à la valse. Le yoga, c'est un peu pareil. Il faut quand même prendre le temps de comprendre qu'il y a beaucoup de façons différentes de le pratiquer, qu'il y a différentes approches et ne pas considérer qu'en un cours, on doit avoir tout de suite ressenti quelque chose. Il ne faut pas attendre de résultats.
On n'a pas tout de suite la jambe derrière la.
Non, derrière mais surtout, il faut y aller sans attendre quelque chose. Il ne va pas se passer quelque chose. On ne va pas avoir un résultat tout de suite. Il faut y aller simplement pour être avec soi. Et si je dois recommander une pratique pour les personnes qui ne connaissent pas du tout et qui débutent, je recommanderais le Hatha Yoga, qui est la base de nombreuses pratiques de yoga. Et qui est vraiment la pratique la plus traditionnelle, la plus répandue en Europe, et qui va donner déjà au moins les clés et les codes de base.
Bien, ça tombe bien parce qu'on arrive en été et qu'on a pris des bonnes résolutions et qu'on se dit ça y est, c'est l'été du yoga. Je rappelle, Élodie Garamond, que vous publiez Du chaos naissent nos étoiles, carnet de bord d'un apaisement, et c'est aux éditions Flammarion.
À votre santé, reviens dans un instant. À votre santé, avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
J'ai invité Élodie Garamond. Alors, vous avez fondé les Tigres Yoga Club, qu'on trouve un petit peu partout en France, et vous publiez votre histoire qui s'appelle Du chaos naissent nos étoiles, carnet de bord d'un apaisement chez Flammarion. Alors, on a vu tout à l'heure que ce n'est pas vraiment une biographie. même non. si vous livrez beaucoup de vous-même.
Alors, c'est une mise à nu, c'est totalement biographique, mais ce n'est pas une autobiographie dans le sens où je n'ai pas cherché à raconter ma vie. J'ai cherché à raconter les étapes de ma vie qui alimentaient un propos, qui est le propos de comment on trouve un apaisement, comment est-ce qu'on s'accompagne d'aide extérieure quand on change de vie, et comment on peut finalement, face à des situations tristement banales qu'on traverse tous et toutes, que ce soit la séparation, le doute, l'avortement, le divorce, les ratages de la vie, comment on peut rebondir et qu'est-ce qui peut nous aider à rebondir, aussi bien d'un point de vue physique que mental ou émotionnel. Et donc, moi, je livre à travers mon parcours des clés qui sont les clés qui, moi, m'ont aidé et qui m'ont accompagné pour aujourd'hui avoir effectivement trouvé cette forme d'apaisement.
À quoi est-ce que vous reconnaissez une vérité ?
Alors, moi, elle résonne juste à l'intérieur de moi ou pas.
Je reconnais une vérité au fait qu'elle sonne comme un souvenir. Il y a beaucoup de citations dans votre livre, il y a beaucoup d'idées de lecture. Alors, il y a des livres qu'on connaît, puis des livres qu'on connaît moins. Quel est votre livre préféré de toute votre vie ?
Ah, de toute ma vie, Le Maître et Marguerite de Bulgakov. Ouais.
Pourquoi vous dites que ce livre, c'est le...
Parce que c'est un livre qui m'a... Je l'ai lu deux fois, et les deux fois, je suis partie très très loin dans un voyage... De sensations, d'émotions très fort, parce que c'est un livre qui allie la psychomagie à l'histoire, parce que la plume de Bulgakov, je trouve, est à la fois dure, violente, poétique, sensuelle. C'est un livre qui m'a énormément marqué, et voilà, je crois que vraiment c'est inconditionnel l'amour pour ce livre. Mais il y en a d'autres, hein. J'avais adoré La Nuit des Temps de Barjavel. J'ai adoré, d'ailleurs, tous les livres que je cite dans mon propre livre sont des ouvrages qui m'ont marqué. Mais Bulgakov, il a une place à part dans mon cœur.
Bien, on va le lire. Combien on a de vie dans la vie ?
On en a beaucoup. On en a autant qu'on a besoin d'en avoir.
Ouais.
Ou
c'est la même qui continue finalement ?
C'est la même qui se renouvelle.
Ouais, parce que les gens disent on va changer de vie, mais finalement c'est la même.
Ouais, ou alors on a l'impression quand on dit c'était dans une autre vie, quand on parle de souvenirs passés. Oui, c'est la même, mais quand on change, quand on déconditionne totalement sa vie, qu'on en reconditionne une nouvelle, on peut avoir légitimement ce sentiment d'une nouvelle vie. Finalement, c'est juste une question de sémantique.
Alors, vous parlez beaucoup de la méditation. Le yoga, ça fait 25 ou 30 ans qu'on en parle, hein, même si aujourd'hui ça devient à la mode, mais c'est pas nouveau le yoga.
Non, moi j'ai commencé à pratiquer quand j'étais en fac à Dauphine, en première année de fac, donc en 95, ouais. 96.
Comment est-ce que vous expliquez le succès finalement que ça a aujourd'hui, alors qu'à une époque c'était resté un truc plutôt de femmes
Oui, il y avait beaucoup de codes autour du yoga. D'abord, c'était un peu New Age pour les babas cool.
C'était ça.
Pour les gens qui portaient des turbans, qui marchaient pieds nus et qui mangeaient des graines. Ensuite, c'est devenu ultra féminin. Ça s'est un peu glamourisé. Et maintenant, on assiste effectivement à ce hashtag yoga pour tous. Et tant mieux. C'est plutôt une bonne nouvelle. Le pourquoi, je pense qu'il y a beaucoup de raisons. Il y a le fait que on a, ce que je disais tout à l'heure, on a pris conscience que le corps est fragile, on n'en a qu'un, et qu'aujourd'hui, on ne se tourne plus spontanément vers les médicaments pour régler des problèmes de santé. On est aussi dans l'idée qu'il vaut mieux prévenir que guérir, de plus en plus, parce qu'on nous l'a dit, et que finalement, le message est passé, et que comment on prévient ? On prévient en changeant ses rythmes de vie, en changeant son alimentation, sa façon de se soigner, en bougeant plus, parce que ça aussi, les messages sont bien passés, bouger, manger 5 fruits et légumes, enfin voilà, on a tous été conditionnés par ces messages-là, et tant mieux, et que le yoga, je pense, est une des clés de réponse, en tout cas l'art de vivre du yoga, tel que je le vis et je le propose.
Parce que c'est un art de vivre,
parce que c'est
une philosophie.
Art de vivre, voilà, exactement, voilà, une façon de s'alimenter, de lire, de dormir, de prendre soin de soi, tout ça. Et donc le yoga est une des réponses, mais De la même façon que beaucoup de personnes vont se tourner vers la médecine chinoise et le Qigong, ou on va se tourner vers... Voilà, ce qui est important, c'est de se tourner vers quelque chose qu'on puisse adjoindre à sa vie de tous les jours et non pas révolutionner sa vie forcément pour pouvoir adopter ces nouvelles pratiques, et que le yoga, finalement, il s'insère très bien dans une vie quotidienne, qu'elle soit urbaine ou pas, et on peut travailler, être mère de famille ou être un homme débordé et mettre du yoga dans sa vie. Mmh. Et je crois que c'est la facilité d'accès au yoga plus les résultats très rapides qu'on en tire.
Mais quels sont les bienfaits, justement, parce que...
On dort mieux, le fait déjà de respirer. C'est ce qu'on vous demande dans un cours de yoga. Vous verrez, puisque je sens que vous trépignez de commencer.
Je m'y mets demain.
Oui, c'est ça. Non, mais je le sens bien, je vous vois déjà là, les doigts qui commencent à faire des mudras.
C'est quoi sur l'histoire des...
Des mudras. Vous savez, c'est les postures des doigts.
Des mudras.
Des mudras. Oui.
À ne pas confondre avec les mantras.
Tout à fait, les mantras, c'est vocaux.
D'accord. Et vous, c'est quoi votre mantra ?
Mon mantra.
Si vous en avez plusieurs ?
Mon mantra.
Oui.
C'est secret, c'est confidentiel.
Ah, on ne peut pas le dire ?
C'est mieux de ne pas le dire.
C'est-à-dire que vous le dites le matin en vous levant ?
Pas que. Je peux me le répéter plusieurs fois dans la journée. C'est comme une petite béquille mentale, mon mantra. Enfin, on appelle ça... Le mantra, c'est plus un chant. Le message qu'on s'adresse à soi-même, on appelle ça un sankalpa. Voilà. Alors... Tout ça pour revenir au yoga, c'est que...
Et du fait que je vais m'y mettre demain, mais j'apprends tout le vocabulaire,
ça va vous aider beaucoup pour démarrer vos cours demain matin à 7h. Ce qu'on vous demande en yoga, vraiment, c'est de respirer. Vous n'imaginez pas combien de personnes ne savent pas respirer, vivent en apnée. Et la respiration a tellement de bienfaits sur le corps que ça, les effets sont quasiment immédiats. Tout de suite, vous vous sentez mieux, vous avez l'impression d'avoir plus d'espace à l'intérieur de vous, plus d'oxygène. Quand on respire mieux, forcément, on a un corps qui est beaucoup plus délié, qui est plus agréable à habiter. On voit mieux, on goûte mieux, on sent mieux. Et voilà. Et après, le fait d'être dans ces enchaînements de mouvements qui vont donner de la flexibilité au corps, qui vont délier le corps, ça va dénouer des tensions. Donc, quand on a moins de tension, on dort mieux. Donc, on est plus cool, on est plus sympa avec soi-même, on est plus sympa avec les autres. On mange mieux, on habite un corps qui est plus agréable à habiter. Mmh. Et évidemment, on a un esprit qui est plus clair, plus calme. On pense mieux, on est moins agressif. Enfin, on parle de vraies choses, on parle d'un vrai quotidien qui change. C'est pas simplement on met les doigts dans la prise et tout d'un coup, on voit des étoiles apparaître avec des messages incroyables. C'est pas ça le yoga, c'est vraiment un bien-être quotidien qui se fait sentir sur tout. Donc voilà pourquoi tout le monde a envie de s'y mettre.
À quelle fréquence il faut le faire pour avoir les résultats dont vous nous parlez?
Je vous fais rêver là, je sens.
Là, je suis déjà accroché.
Ouais. Surtout que vous m'avez dit au début de l'émission, jamais je n'irai au yoga. Donc je sens que vous êtes prêt.
Mais c'est même pas en rêve. Non, si ce qui me convainc, c'est l'histoire du...
Mieux dormir.
Non, c'est l'histoire du dos.
Ah oui.
Du dos.
Vous savez que moi, je ne pouvais pas poser le pied par terre certains jours. C'était vraiment terrible.
Ouais.
Combien de fois il faut en faire par semaine? Idéalement, il faut le faire une ou deux fois par semaine dans la partie de pratique posturale. Mais si vous prenez 15 minutes en plus tous les matins simplement pour respirer, faire un ou deux exercices de respiration et rentrer dans une forme de méditation, simplement de calme, on appuie sur le bouton pause. Alors pour certains, ça va être le soir, pour d'autres le matin. Pour vous, peut-être à la fin d'une émission, de vous isoler dans une pièce et simplement tout éteindre et juste faire le plein de l'instant présent. Ça change la vie très vite.
Enfin, si on est raide comme un piquet, par exemple?
Alors j'entends ça toute la journée. Vous avez raison.
Parce que les gens se disent, ouais, mais moi je suis pas sûr, de toute façon, je vais pas y arriver.
Et je peux pas toucher les pieds avec mes mains, puis j'ai pas le bon legging non plus. Et comment faut s'habiller? Legging. C'est le pantalon qui est un peu près du corps.
Je sais, je sais. Ça, c'est terrible.
C'est terrible, c'est saillant. Comment...
Ça, avec un sweat, c'est magnifique.
Alors, on n'a pas besoin d'être souple pour faire du yoga. Je le dis, je le redis, je l'affirme. Vous n'avez pas besoin d'être souple. Le yoga va vous apporter une forme de flexibilité. Et la flexibilité, elle va déjà être mentale. Vous verrez. Et la flexibilité physique suivra. Mais vous savez, quand vous respirez, c'est physiologique, hein, c'est pas spirituel ce que je raconte, d'envoyer du souffle dans les muscles, le corps est quand même très bien fait. Et il y a ce qu'on appelle le syndrome de Golgi, qui est que les muscles entendent un message du système nerveux qui dit « c'est bon, vous pouvez vous relâcher ». Et ça, c'est parce qu'on respire. Donc, on calme le système nerveux sympathique, qui active le parasympathique. Et donc, ça va dire aux muscles « détendez-vous ». Et progressivement, et comme le corps est bien fait, il a une mémoire, et la masse musculaire a une mémoire, donc progressivement, elle va s'assouplir, elle a même en repartant du point où on était arrivé la fois précédente.
Golgi, retenez ça. Est-ce que c'est cher ? Est-ce que ça a la réputation d'être assez cher ?
Si vous pratiquez chez vous sur votre tapis, ce n'est pas cher.
Mais si je vais au tigre.
Si vous pratiquez au tigre, nous on a beaucoup de formules. On a effectivement la réputation d'être plus cher que les autres et on est un peu plus cher que les autres en fonction des formules. Nous on cherche à créer des lieux de vie, donc des clubs. Donc c'est pas cher chez nous si vous prenez des abonnements à l'année, c'est plus cher au cours. Après, il y a tellement aujourd'hui, il y a une offre qui est tellement éclatée. Honnêtement,
entre
de dire que ça coûte trop cher
aujourd'hui, les studios.
Voilà, exactement. Et là, je ne prêche pas pour ma paroisse. Vous l'aurez compris, je prêche pour une forme de yoga universel. Donc, on ne peut plus entendre aujourd'hui qu'on ne fait pas de yoga parce que c'est cher, parce qu'il y a des offres digitales, il y a des offres partout. Et que le prix de la santé, je trouve que quand je vois ce que dépensent les gens pour ce qu'ils mettent sur leur corps, je ne comprends pas qu'ils ne veuillent pas dépenser la même chose ou plus pour ce qu'ils mettent dans leur corps. Ça, c'est quelque chose qui m'interpelle. C'est
d'où comme le succès du bio. Non, il y a une prise de,
oui,
y a
voilà,
une prise de
non,
conscience
exactement,
aujourd'hui
y a
des gens qui disaient...
Voilà, qui disaient c'est trop cher
ça,
le bio.
Oui, mais ça ne sert à rien de se mettre des crèmes si vous ne commencez pas à vous intéresser
à
ce que vous mettez à l'intérieur
exactement.
De votre corps. Ça, c'est la base.
C'est exactement ça. Et tant mieux. Et donc, le yoga, c'est pareil. Il y a un moment où on fait tellement de bien à son corps et à son esprit que voilà, et aujourd'hui, c'est accessible.
C'est un peu le message qu'on veut faire passer ce matin. D'ailleurs, le yoga est en train de se démocratiser. On le voit parce qu'il y a toujours des gens improbables autour de vous qui se mettent au yoga et disent « Ah, tu fais du yoga, toi ?» Et c'est là qu'on se dit que finalement, c'est devenu un sport qui se démocratise aujourd'hui, au même titre que les gens allaient dans les clubs de fitness.
Avant. Exactement. Je me permets de vous corriger, Philippe, le yoga n'est pas un sport. Et d'ailleurs, on ne dépend pas
c'est
du ministère des Sports.
C'est une gym douce, c'est quoi ?
C'est une activité culturelle, si je reprends les terminologies officielles. Mais on n'est pas un sport, on n'est pas considéré comme un sport, ni d'un point de vue économique.
Non, mais c'est bien, j'apprends des
choses. Ni dans l'activité.
Vous êtes parti à la quête du sens de vous-même. Comment est-ce qu'on part à la recherche du sens de soi-même ?
Il faut déjà avoir un appel, il faut déjà être dans une situation soit où on ne se supporte plus soi-même, où on a l'impression d'avoir fait fausse route et tous les matins on se dit mais je n'ai pas la vie que je devais avoir, à quel moment je me suis trompé de chemin. Donc il faut accepter de revenir un peu en arrière et d'essayer de mettre le doigt sur la bifurcation qu'on a ratée et puis avoir envie de repartir sur un chemin et de se dire finalement est-ce que c'est ça ? Et peut-être pas, mais il faut être un peu...
Mais c'est quel
il faut avoir une forme d'humilité
pour vous, finalement.
Il faut
c'est quoi parce que vous dites
il
faut plus
support. Le déclic, il se fait dans mon cas, je ne me suis pas réveillée un matin en me disant je vais changer de vie. Ça s'est pas fait comme
vous
ça.
Vous n'avez pas dit mais je me supporte plus, je m'aime plus, j'aime plus mon corps.
Non, parce que ce désamour de mon corps, cette dysmorphophobie, mon mot préféré.
Oui, c'est d'ailleurs c'est l'introduction.
Oui, parce que c'est vrai, vous rendez compte que 80% des femmes le ressentent.
Alors on explique ce que c'est. La dysmorphophobie, c'est quoi ?
La dysmorphophobie, c'est l'incapacité à voir son corps tel qu'il est réellement. Et ça parle à beaucoup de gens qui m'écoutent, je suis sûre.
Malheureusement,
et notamment beaucoup de femmes.
Parfois, des photos vous rappellent à la réalité. Hein.
Oui, mais je n'ai pas dit de le voir moche quand il est beau. J'ai dit de ne pas le voir tel qu'il est vraiment. C'est cet écart qu'il y a entre le regard et le jugement que l'on porte sur soi par rapport à la réalité de qui on est et de ce à quoi on ressemble.
Et c'est plus féminin que masculin.
C'est plus féminin que masculin, mais c'est aussi masculin. C'est pour ça que je ne veux pas, je ne veux pas segmenter ce propos parce que je pense que ça touche tout le monde, malheureusement. Donc, dans mon cas, en tout cas, ce désamour de ce à quoi je ressemblais, il date de l'adolescence, mais il a été... les aléas de la vie et de ce que j'ai vécu ont fait que ça s'est aggravé à un point où finalement je me suis fait beaucoup de mal.
Bon, je passerai bien volontiers une heure de plus avec vous, Élodie Garmon. Il y a beaucoup de choses dans votre livre, hein, « Du cas où naissent nos étoiles », carnet de bord d'un apaisement, voilà, aux éditions Flammarion. Et vous nous avez apaisé ce matin.
Eh bien, tant mieux, j'en suis ravie.
Voilà, et puis on se voit à la rentrée.
Rendez-vous donc, à la rentrée voilà, sur le mat. Tapis de yoga.
Le mat, j'y vais demain. Merci d'avoir été avec nous ce matin.
Merci Philippe, à bientôt.
Retrouvez à votre santé tous les samedis de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.